Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Blues du scénariste, un numéro très spécial cette semaine et la semaine qui vient, puisque c'est une émission en deux parties consacrée totalement à Alain Guiraudy, notre petit chouchou canois. Young, je vois que tu as envie d'en parler là.
Ce que j'avais envie de dire, c'est pas vraiment le blues du scénariste cette semaine, c'est plutôt le bordel enchanté, comme le générique le dit. Voilà, c'était mon petit mot.
Bon, on remet un poil de musique et après
oui,
on attaque tout de suite avec Alain et le grand interview qu'il nous a accordé à Cannes.
Elles font tout mieux qu'à la maison.
Entrée, payer, baiser, c'est la devise de ce poste.
Tu sais ce que disait Roger Vaillant ? Au théâtre, comme dans la sexualité, les vrais amateurs préfèrent les professionnels.
Vous l'avez compris, les mecs ? Les vrais amateurs préfèrent... Les quoi ? Non, j'ai pas écouté, en fait.
Les professionnels.
D'accord, merci beaucoup, Marc. Donc, Alain Guiraudy, on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc, il a sorti un film, enfin, il a présenté un film à Cannes qui s'appelait « Ce vieux rêve qui bouge ». C'est un moyen-métrage. Il a son actif donc un court-métrage qui s'appelle Du soleil pour les gueux. Voilà, donc Alain Guiraudy, c'est un réalisateur quand même, enfin c'est un jeune réalisateur. Et il a eu le prix Jean Vigo avec Ce vieux rêve qui bouge. Et qu'est-ce qu'il aurait d'autre à dire ? Ben c'est un cinéaste bien particulier avec un univers à lui. Et voilà, donc je l'ai rencontré à Cannes à l'occasion de son film. Et donc, on a parlé donc de ce vieux rêve qui bouge et aussi de plein de choses. Est-ce qu'on rappelle l'histoire de ce vieux rêve qui bouge ou non ?
Tout à l'heure, on en reparlera.
Tout à l'heure, on reparlera, d'accord.
Tout de suite, par écouter un petit bout.
Ok. Donc, si vous nous avez écouté la semaine dernière, d'ailleurs, vous avez intérêt à nous avoir écouté la semaine dernière, vu que c'est à suite un peu de l'extrait de l'interview qu'on vous a passé. Et donc là, on va un peu parler d'Éric Rohmer et aussi de son cinéma à lui, qui me semblait proche au niveau du style en tout cas, car il y a un univers bien particulier, les acteurs parlent d'une certaine façon, et voilà, donc on écoute ça tout de suite.
Tu parlais justement d'Éric Rohmer, et moi, enfin, quand j'ai vu ton film, ça m'a fait penser à lui, parce que tu installes un certain univers où les personnages ont un certain ton, un certain phrasé, même une certaine façon de s'habiller, et même dans Du soleil pour les gueux aussi, c'était déjà, ça se voyait que c'était un univers à toi. Et.
Ouais, fait, par rapport. Bon, moi, Rohmer, j'ai été très fan. Les derniers temps, je me disais, merde, Rohmer, il fait du Rohmer, et puis voilà, bon, donc j'étais très curieux de voir effectivement ce qu'il a fait là. Ouais, après ce qui nous, je sais pas moi, ce qui m'a toujours plu chez Rohmer, c'est le côté déjà le côté, bon, on préserve la belle langue. Déjà il y a un côté un art du langage, un art du dialogue, mais même hérité du théâtre de Marivaux, même quasiment littéraire quoi. Et je trouve que c'est bien aussi de résister à une espèce de démagogie ambiante qui les mecs, quand ils te parlent du... Enfin, il y a beaucoup de films, on a vu beaucoup de films comme ça, où les mecs, quand ils te parlent du petit peuple, le petit peuple parle toujours... Il y a toujours des putains, cons, une espèce de vulgarité, de grossièreté attachée à ça, qui m'énerve assez, alors que... Enfin, Du soleil pour les gueux, moi, par exemple, ça me plaisait vachement l'idée que... Bon, ok, je parle de prolo, mais le prolétariat parle bien, quoi. Voilà, j'aime la belle langue. Bon, là, après, je pense que dans Ce vieux rêve qui bouge, je suis un peu revenu là-dessus, quoi. Bon, c'est déjà du langage beaucoup plus parlé, beaucoup moins écrit. Il y a quand même, bon, on reste dans du phrasé. Enfin, je pense que si on va dans une usine, ça parle rarement comme ça, effectivement.
Hey, vous parlez de quoi ? Oh, vous parlez de quoi, là ?
Aujourd'hui, nous allons vous parler dans l'émission Intérieur Jour de cinéma expérimental, et peut-être que vous avez entendu avoir annoncé de Stan Breckage il y a quelques semaines. Et chose qui tombe plutôt bien, c'est que nous avions préparé une émission sur le cinéma expérimental avec quelques membres de l'association Braquage. Et donc ce soir, nous allons recueillir un petit peu leurs propos en ce qui concerne le cinéma expérimental. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il est possible de donner une petite définition de ce cinéma qui est méconnue,
complexe.
Peut-être pas d'un point complexe, mais peut-être un peu en marge quant à la production et la distribution du cinéma qu'on le connaît. Donc ce soir, nous avons Élodie avec nous.
Bonsoir.
Nicolas.
Bonsoir.
Et Martin qui va m'aider à chaperonner
Bonsoir.
Cette émission. Voilà, on va en parler tout de suite.
Alors on peut commencer par une petite présentation historique du cinéma expérimental. Par exemple, dans certains livres, le livre de Dominique Noguès, on lit qu'il commence à définir le cinéma expérimental dès le cinéma des premiers temps. Donc pour lui, par exemple, les films de lumière, les premiers films du cinéma en France, sont des films expérimentaux.
Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a une certaine... Au tout début du cinéma, on peut dire que tout ce qui était expérimental... Enfin, tout ce qui était début du cinéma était une expérimentation par définition, puisque le cinéma en tant qu'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas encore. Donc forcément, on avait l'impression que chaque nouvelle apparition, chaque disparition dans les films de Méliès, par exemple, tous ces trucages et tout ça, étaient en effet du cinéma expérimental, puisque c'était à la fois du cinéma et à la fois de l'expérimentation. Par contre, c'est vrai que très rapidement, dans l'histoire du cinéma, est apparu un courant qui avait envie de faire du cinéma un nouvel art. Et c'est là, à mon avis, qu'on peut vraiment voir la naissance du cinéma expérimental en tant qu'art, puisqu'il a fallu choisir entre le cinéma en tant qu'industrie ou le cinéma en tant qu'art. Et les gens qui se sont engouffrés dans la voie du cinéma comme art ont vraiment, eux, tenté de faire quelque chose de différent de l'industrie et du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Et c'est qui, alors, qui s'est un peu lancé dans cette nouvelle conception du cinéma comme art ?
Alors, ça commence très tôt, justement, avec des gens comme Méliès, qui, eux, ont gagné de l'argent en faisant une industrie du spectacle, de la disparition, de l'apparition et tout ce qui est trucage. Et ensuite, au moment de l'apparition de ce qui s'est appelé le film d'art, justement, donc l'assassinat du duc de Guise, pour les plus cinéphiles de vos éditeurs, à ce moment-là, donc ça doit être dans les années, 19-18, par là, l'assassinat du duc de Guise.
Ça doit être ça, j'ai pas exactement la date précise. Mais...
Non, mais ça doit être un peu avant les années 20. Donc à partir des années 20, en fait, il y a un mouvement qui s'appelle l'avant-garde et qui a à sa tête, par exemple, Germaine Dulac, qui est quelqu'un qui est très connu et qui, c'est elle qui a vraiment essayé de faire du cinéma comme art. Alors c'est là que ça devient un peu compliqué, puisqu'il y avait d'un côté le cinéma d'art qui était plutôt une façon de filmer du théâtre, donc du théâtre filmé comme l'assassinat du duc de Guise, et de l'autre côté des gens comme Germaine Dulac ou même Deluc, ou même des noms qui sont plus connus même dans
Epstein.
Le cinéma. Epstein aussi.
Mais justement les films sont... montré, connu dans les écoles de cinéma, les films La chute de la maison Usher, par exemple, d'Epstein, et l'adaptation des Garpeaux.
Le cinéma expérimental n'est pas forcément méconnu et n'est pas forcément méprisé par les écoles de cinéma.
Il y a quelques films qui sont quand même à l'intérieur du cinéma expérimental, qui sont reconnus, aimés, étudiés.
À mon avis, alors c'est toujours pareil, tout ce que je vais dire ce soir n'engage que moi, c'est pas du tout une pensée historique ou d'historienne du cinéma, c'est simplement mon avis en tant que personne qui fait de la programmation de films principalement. Donc, à mon avis, il faut faire une distinction entre le cinéma d'avant-garde, donc ce que je pense être le cinéma qui commence avec Germaine Dulac et qui comprend, je ne sais pas, Léger, Man Ray, tous ces gens-là qui sont en effet des gens qu'on connaît dans l'histoire du cinéma parce qu'ils sont importants pour l'histoire du cinéma. Et ensuite, le cinéma expérimental ou underground ou tout ce cinéma qui par contre est né en effet plus tard. Et à mon avis, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Il y a vraiment une... Au moment du cinéma d'avant-garde, c'était une démarche très artistique. Par exemple, Man Ray était un artiste avant tout, un photographe, et il fonctionnait dans un système de production artistique. C'est le cas aussi pour Fernand Léger, qui est avant tout un peintre qui a fait un film. Alors qu'ensuite, il y a vraiment eu un mouvement de personnes qui étaient vraiment des cinéastes et qui faisaient un cinéma qu'on peut dire expérimental.
Et est-ce que c'est né avec un petit peu Jonas Mekas qu'on connaît pour pas mal de films, puisque quand même là, il a un cinéma qui s'est vraiment exporté et vraiment vu. Est-ce que Jonas Mekas n'a pas formé plus un collectif qu'un groupe en imposant certaines règles et certaines choses ?
À la base, dans l'histoire du cinéma expérimental, Jonas Mekas a été la personne qui a fondé le premier collectivité de location et distribution de films aux États-Unis, qui était l'anthologie Film Archive, qui est à New York. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ça permettait plus une sorte de distribution national et international de cinéma expérimental, du fait qu'on lui donnait des films pour les montrer à d'autres personnes.
Donc il y avait déjà le processus de la diffusion.
Exactement, c'est une démarche en même temps, c'est un artiste, et en même temps, il s'est voulu être une sorte de promoteur du cinéma expérimental.
C'est vrai que le cinéma expérimental, quand je parlais d'avant-garde, c'est un mouvement qui est très européen, qui comprend à la fois la France, l'Allemagne et l'Italie, mais avec le mouvement futuriste où ils ont aussi fait des films. Et avec Jonas Mekas, en fait, qui vient en effet de Lituanie et qui donc vient d'Europe et qui se retrouve obligé de partir aux États-Unis pendant la guerre et donc de se réfugier aux États-Unis. Il emmène avec lui toute une culture qui est quand même une culture européenne. Et quand il arrive aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a un puits de culture littéraire. Et il est gêné par le barrage de la langue, puisqu'il se retrouve dans un pays dont il ne parle pas la langue. Et donc lui, il se dit immédiatement que la façon dont il va pouvoir continuer sa poésie, ça va être d'emprunter une caméra. Et donc il a cette envie d'utiliser le cinéma comme un moyen poétique, comme un moyen de faire de la poésie.
Et un moyen de communication aussi.
Et un moyen de communication, puisque y a l'exemple célèbre qui l'explique dans Lost, 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 donc qui est le film qui est fait à partir des premières images qu'il a filmées. Donc c'est un montage qui est plus tardif que les précédents films, enfin que Walden par exemple. Donc c'est un peu compliqué. Walden, c'est le premier film qu'il a monté, donc c'est le premier film fini, et qui raconte les années américaines en fait. Donc où il rencontre toute la clique de Warhol et tout ça. Donc c'est un peu les années stars. Et ensuite, il a fait un montage à partir des premières images qu'il avait filmées et qui, par contre, étaient les toutes premières images de son arrivée aux États-Unis avec toute la communauté lituanienne. Et donc, ce moment-là, c'est le moment où il explique qu'il utilisera le cinéma comme moyen de communication, parce que quand on montre une fenêtre, au moins on voit que c'est une fenêtre, alors que pour lui, le mot fenêtre représente vraiment quelque chose au niveau des sonorités. Et donc, tout ça pour vous dire que Mekas arrivait avec une envie d'utiliser le cinéma comme un moyen de communication et de poésie, et donc il a eu envie de montrer les films des gens qui se faisaient autour de lui, et c'est comme ça, en effet, qu'est né le mouvement du New American Cinema, donc de tous ces gens qui, en dehors des grosses majors américaines, voulaient faire leurs films tout seuls.
J'aurais dû travailler tout seul, parce que j'aurais dû faire. Au lieu de ça, j'ai fait du sentiment.
En ce moment, dans les salles, La Panthère Rose, un film qui nous vient des États-Unis, qui n'est pas, comme on pourrait le croire, un remake du film La Panthère Rose des années 70, le film de Blake Edwards qui a fait plusieurs suites avec le grand, l'inimitable Peter Sellers. Évidemment, ce genre de film, on ne peut pas les refaire en mieux, donc en fait, ce n'est pas un remake de La Panthère Rose, mais c'est quand même un remake, hein, Jérôme.
Oui, Marc, c'est un remake de La Féline de Jacques Tourneur, un film un petit peu oublié, un film des années 40 en noir et blanc, produit par Val Newton. Un petit peu gothique.
Un film culte, hein, c'est vraiment lui qui a introduit ce côté de filmer les ombres. Enfin, c'est un petit film d'horreur un peu série B, mais qui a vraiment eu une grande influence sur tout ce qu'on a pu voir, hein, peut-être depuis. Donc c'est un...
Une version gay, une version queer, on peut le dire, de La Féline en 2005 à Los Angeles. Simone Simon est remplacée par Kevin Kline, en fait, qui erre la nuit et se transforme épisodiquement en Panthère Rose. Alors il y a des effets avec des morphings qui sont plus ou moins bien faits, on dira. Et il y a la célèbre scène de la piscine du film, en fait, que l'on retrouve avec Beyoncé qui est en train de nager au milieu, de clapoter, de s'ébrouer en chantant des chansons bretonnes au milieu de la grande piscine olympique. Et puis donc Kevin Kline se transforme en fait en panthère rose. Il est même à deux doigts de devenir vert, de devenir une sorte de Hulk sur pattes. Là, jusque là, l'amateur de cinéma gay sera un petit peu déçu.
Oui, parce que bon, enfin Beyoncé, enfin faut le dire, joue un travesti, hein, parce que sinon on se demanderait quelle est la dimension queer là, de la scène. Donc c'est aussi tout l'intérêt. Notamment, il y a un plan assez bref, mais qui nous montre au moment où elle sort de la piscine en courant, et donc parce que la panthère rose rôde autour et qu'elle est terrifiée, scène assez puissante, on voit brièvement son corps nu apparaître, et là, miracle des effets numériques, Elle a un petit zizi.
Oui, et comme elle va échapper, parce que son petit zizi va foudroyer complètement la Kevin Kline, eh bien, elle va échapper, donc à la proie va échapper à Kevin Kline.
Voilà, bon, moi je pensais pas à la hauteur quand même de l'original, la féline. Là, on est quand même dans des choses un peu plus explicites, hein, et un peu moins terrifiantes, mais peut-être, peut-être un nouveau film culte à venir.
Avec un petit peu moins de Bretagne, ça aurait été bien.
Vous me faites marrer, vous. Pourquoi est-ce qu'il vient canner devant ma porte à moi, ce con de corbeau ?
Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know ? Nombrilistic, you know ? Nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite.
Welcome to a night of total terror. Night of the Living Dead.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau hors-champ. Un hors-champ consacré, comme vous aurez peut-être pu le comprendre, aux morts-vivants. Alors les morts-vivants, ces créatures tellement cinématographiques, pas uniquement, mais pourtant tellement bien incarné à l'écran par des créatures de toutes les couleurs, plutôt pâles en général, qui avancent difficilement, et que nous connaissons si bien et si mal à la fois. Qui est le mort-vivant ? Nous allons nous interroger aujourd'hui, et je suis en bonne compagnie pour explorer un petit peu l'univers des zombies, morts-vivants et autres appellations d'origine contrôlée. Alors Eric, Cécile et Nicolas, vous êtes avec moi. Bonjour.
Salut.
Bonsoir.
François Régis est à la réalisation, bonsoir. Et nous allons donc étudier le cas mort-vivant un petit peu sous toutes ses formes. Et il y en a quand même beaucoup, c'est un peu ça qu'on va pouvoir comparer, parce que finalement, de la nuit des morts-vivants, en passant par Vaudou, en allant jusqu'à Shaun of the Dead, sans oublier l'armée des morts.
Ou, les Fulci.
Les Lucio Fulci comme l'au-delà, dont nous entendons en ce moment un petit peu de musique, tous ces films sont très différents et explorent petit à petit différents univers qui ont pour point commun eh bien, ce retour du mort qui vient pour manger le vivant. Alors, le mort-vivant, première petite interrogation, mais de taille, c'est toi Eric qui va t'y coller, d'où vient le mort-vivant au départ ? Parce que si Dracula vient des romans et de la littérature, le mort-vivant, cette créature tellement surprenante, elle sort d'où, si ce n'est de sa tombe ?
Ben en fait, elle sort tout simplement des rites vaudous haïtiens. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, les zombies pourraient être ce qu'on appelle les victimes des Ougans, qui sont en fait les prêtres vaudous. Donc ils sont victimes d'une espèce de sortilège ou d'un sort, enfin tout cela n'a rien de magique même si à l'époque c'était très, très mystérieux. En fait on leur administrait une drogue très très puissante par intermédiaire de poudre enfin ou sur la peau qui stoppait les parties vitales, enfin qui mettait la personne dans une espèce de léthargie et on l'enterrait.
C'est un petit peu ce que donne Roméo à Juliette ?
Sauf que Juliette, elle meurt.
Mais oui.
Mais non, voilà, voilà. Là, on reste vivant. Les gens sont vraiment les témoins de leur propre enterrement. Et on les enterre en, en disant aux proches, tout le monde.
C'est vrai, ça c'est.
Oui, 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 c'est vraiment.
C'est pas que des films.
Non, non, c'était dans les rites. Et en fait, après, le prêtre les ressort de terre, il continue à les droguer. Et là, à ce moment-là, ils sont plus du tout maîtres d'eux-mêmes. Ils voient juste leur propre être et ils se font complètement manipuler par ces prêtres vaudous qui les utilisent, qui les donnaient à d'autres gens pour les mettre dans les plantations, qui étaient utilisés dans les plantations. Ils étaient drogués et utilisés dans les plantations comme esclaves, vraiment. Et Il faisait tous les travaux manuels, des choses comme ça, et considéré vraiment comme mort.
C'est un peu l'origine de l'esclavage, quelque part.
Pratiquement. Mais c'est quelque chose de vraiment de très très sérieux. Par exemple, dans le code pénal haïtien, il y a une petite partie, donc je vais vous lire tout très très vite, qui dit « est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de substances qui, sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins prolongé. »
Donc égal, c'est qui aura essayé de transformer quelqu'un en zombie pour zombifier.
Égal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les parties, c'est très très présent. Et en fait, cette importation en Amérique est arrivée à peu près dans les années 1915, quand Haïti s'est fait occuper par les États-Unis. Et en 1929, un voyageur, William B. Seabrook, a fait un livre relatant des phénomènes qu'il avait vus de ces prêtres vaudous qui ensorcelaient ces gens. Et à partir de là, on a assisté à un musical à Broadway qui a donné lieu après au premier film pratiquement de zombies, donc White Zombie.
Un musical. Alors White ça, faut imaginer le musical à base de zombies.
Voilà. White Zombie n'est pas du tout un musical, lui, mais par contre, effectivement, il y avait cette comédie musicale avant où ils ont dressé un procès contre les auteurs de White Zombie pour plagiat. Procès qu'ils ont perdu.
Alors, White Zombie, donc un film dont nous allons écouter tout de suite un petit extrait.
They are not men, monsieur. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Corpses taken from their graves, or made to work in sugar mills and fields at night. Look! Here they come!
Looks like a burial.
In the road? Driver, what is it?
It's a funeral, Menzel. They're afraid of the men who steal dead bodies. So they dig the graves in the middle of the road, where people pass all of the time.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Tout de suite, vous allez écouter une conférence qui va ouvrir une sorte de cycle que vous pourrez écouter tout l'été. C'est une des conférences prises pendant le festival Paris Cinéma. Cette première conférence aura un dialogue entre Aki Kaurismäki et le critique Pascal Mérigot du Nouvel Observateur. Aki Kaurismäki est un grand cinéaste finlandais dont vous avez pu suivre la rétrospective lors du festival Paris Cinéma qui se tenait du 1er au 12 juillet. Et en partenariat avec Radio Campus Paris, toutes les conférences et les ciné-campus de ce festival ont été prises et vous allez pouvoir les écouter tout l'été. Donc tout de suite, je vais laisser la place à Aki Kaurismäki pour sa découverte, son interview, sa lettre ouverte, j'ai envie de dire. Et je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après.
First, the good news, I'm not the man I used to be. But on the other hand, I never was. Then the bad news, Pascal Mérigot is as merry show is as always. And now the good news. I mean, the bad news and the good news. The good news are that the smoke detectors don't react for my cigarettes. And the bad news, you can't smoke. Vamonos.
Vamos. Je voudrais d'abord poser une question, parce qu'on se trouve à la Cinémathèque, et je vais profiter pour poser une question que je ne t'ai jamais posée. Nous avons un point commun, c'est que le premier film que nous avons vu l'un et l'autre était un Tarzan. Et tu te vantes que ce Tarzan était un film avec Johnny Westmuller. Et je ne te crois pas, parce que tu as 4 ans de moins que moi, et à cette époque, on ne voyait plus les films avec Johnny Westmuller. Donc je pense que tu as vu un Tarzan avec Gordon Scott.
First of all, the bad news is that you are not as old as you think. Secondly, I was prematured. And the only Tarzan is Johnny Weissmuller. Who else? I wouldn't trust that uncivilized language.
Monsieur Kaurismäki ne veut pas parler le finnois, alors je ne sais pas si... Vous comprenez l'anglais? Oui, alors on va parler en finnois.
Mehän voidaan sitten ottaa hyökkäys Irakiin, jos englanti on kerran kielletty.
Jos mitä? Mikä on kielletty?
Suomen kielen kanssa niin. Tämä käy just näin, tämä menee pieleen.
Ah oui, il paraît que si on parle en finnois, ça n'ira pas. Ça se passera mal.
She don't want to discuss about our attack to Iran.
Ah oui, il paraît qu'on va attaquer l'Irak à ce moment-là.
Iran is next.
L'Iran.
L'Irak, c'est déjà fait.
Ah oui, parce que l'Irak, c'est déjà fait.
That was our original goal.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Mais il est complètement fou, ce mec!
C'est trop drôle.
Mais voyons, je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Arrête-toi!
Et action!
C'est la séance de nuit.
La séance de nuit, la séance de nuit, la séance de nuit.
Redécouvrez chaque semaine un film méconnu.
Aujourd'hui, Dark City.
Vous êtes désorienté, n'est-ce pas? Effrayé, c'est normal. Je peux vous aider.
Qui êtes-vous?
Je suis médecin. Vous allez m'écouter maintenant. Vous avez perdu la mémoire. Suite à une expérience qui a mal tourné, votre mémoire a été effacée. Est-ce que vous me comprenez?
Non, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire?
Écoutez-moi, des personnes sont après vous. Elles sont peut-être déjà là. Il faut pas qu'elles vous trouvent. Vous devez partir tout de suite.
Allô?
Vous êtes là?
Un homme se réveille amnésique dans un hôtel miteux. Il trouve à ses côtés un cadavre et une carte postale. C'est pour lui le début d'une quête identitaire qui l'amènera à mettre en cause la réalité du monde qui l'entoure. Dark City, sorti le 27 février 1998, est le troisième film du réalisateur australien Alex Proyas. Il reste à ce jour son œuvre la plus aboutie. Le film raconte la quête d'identité et de liberté d'un homme amnésique perdu dans une cité où le jour ne semble jamais se lever. Dark City s'inscrit dans la lignée de nombreux films paranoïaques de l'époque. Peu après sortiront les films The Truman Show, Matrix ou Existence, qui aussi remettent en cause la réalité du monde. Le film se plaît à utiliser les codes visuels du film noir des années 40. Dès le début, le film emprunte beaucoup à l'ambiance visuelle typique du genre. On retrouve le détective, les impairs et les hôtels peu recommandables. Très vite, le film bascule dans un univers esthétique plus expressionniste quand l'histoire plonge dans le fantastique. La ville va littéralement se tordre et étouffer ses malheureux habitants.
J'ai feuilleté quelques-uns de tes vieux rapports d'enquête. C'est une affaire très intéressante. Le genre d'affaire qui peut lancer la carrière de quelqu'un. Ou la briser.
Oui, je menais cette enquête.
Et alors? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Eddie?
Il s'est rien passé. J'ai passé mon temps à arpenter le métro, à tourner en rond, à penser en rond. Il n'y a pas d'issue. J'ai exploré chaque recoin de la ville.
Tu as découvert quelque chose, Eddie? Un élément nouveau dans l'affaire?
Il n'y a pas d'affaire! Il n'y en a jamais eu! Tout ça n'est qu'une monstrueuse farce! C'est une farce!
Il faut saluer la qualité des interprètes, notamment Kiefer Sutherland, ici bien loin de Jack Bauer. Il joue le rôle d'un scientifique qui sort de Dr. Caligari à la solde d'une étrange communauté. A noter aussi la présence de Jennifer Connelly en magnifique chanteuse de cabaret. Je ne saurais que trop vous conseiller la version Director's Cut du film sorti il y a quelques années en DVD. Si elle rajoute aucune scène majeure au métrage, elle contribue à fluidifier la narration globale. Malgré sa noirceur, Dark City dégage une poésie qui permet au film de trouver sa place aux côtés des classiques de la science-fiction.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, 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 cinéma.
Excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel Riviera ?
bien se trouvait cet hôtel. Nous avions cherché sur la côte ouest de l'Angleterre, dans un comté appelé le Devon. Nous n'avions rien trouvé. Nous nous étions alors aventurés sur la côte ouest des Beach Boys, mais il s'agissait bizarrement de l'hôtel californien. Nous étions donc retournés du côté du Liverpool des Beatles, du Londres de Fleetwood Mac et de Ziggy Stardust, mais toujours rien. Bref, nous nous étions un peu perdus. Alors quand on nous a dit qu'il suffisait juste de suivre les mouettes, nous nous sommes laissés guider pour se retrouver finalement au bord de cette côte imaginaire où depuis 10 ans, dans cette station balnéaire, un métronome en chef faisait battre le pouls de la pop à grands coups d'albums plus singuliers et captivants les uns que les autres. Nous avons donc longé le littoral, les fenêtres grandes ouvertes sur le soleil qui se couchait comme un œuf qu'on casse sur la mer. Le parking de la plage était presque rempli et le bal de l'hôtel Riviera battait effectivement son plein. Dans le hall, les gens s'empressaient et les videurs aux allures de Robocop avaient du mal à contenir la foule. Nous devinions quelques célébrités au loin, Gillian et Wes Anderson accoudés au bar, Kelly DeBrock qui semblait avoir une nouvelle fois oublié son soutien-gorge, sans oublier Roméo et Juliette qui faisaient crépiter les flashs à chaque fois qu'ils s'embrassaient. Tout le monde semblait s'être donné rendez-vous pour aller voir ce groupe au look d'animateur de casino des années 60, dont le leader faisait sortir de sa guitare et de sa voix la nostalgie et la modernité, la désuétude et la nonchalance, la mélancolie et la joie. Bref, nous étions bien arrivés à l'hôtel Riviera, et c'était bien Métronomie qui nous faisait son cinéma.
Hello, Joseph.
Bonjour Joseph.
Hello.
Bonjour.
Joseph, do you remember?
Joseph, est-ce que tu te souviens la première fois que tu es rentré dans un cinéma ou la première fois que quelqu'un t'a emmené voir un film?
Vaguement.
Il y avait un cinéma juste en haut de la rue où mes parents habitaient. C'est toujours un cinéma d'ailleurs. C'est une petite salle où ils passaient des films pour enfants. Donc je pense que c'était quelque chose comme Asterix.
Asterix.
Really?
Pardon.
Ah oui, vraiment, donc c'était un film français alors.
Ouais, c'était un truc dans ce genre.
Il faut les soumettre, ces Bretons. Ils ont trop souvent aidé les Gaulois.
La victoire est assurée, grand César. Tu vas la conquérir bien vite, cette petite Bretagne.
Cette grande Bretagne. Les Bretons sont des gens courageux. Pour eux comme pour nous, ce sera le jour le plus long.
Que les vents nous soient favorables.
Ça commence bien.
Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles.
There's a few things I remember about going to that.
Il y a d'autres films qui me reviennent de ce cinéma. Je me souviens que j'ai aussi vu cette adaptation du livre Mathilda de Roald Dahl et j'avais quitté la salle parce que c'était beaucoup trop effrayant. Non, en fait, c'était pas Mathilda, c'était Les Sorcières de Roald Dahl avec ce passage où les petits garçons se font transformer en souris.
Come on in then. Come on, wait just there. Now, what's your name, then?
Bruno.
Ooh, madam, madam.
So I was too scared.
J'étais vraiment trop effrayé.
Quel âge as-tu? Avais-tu? Quel âge avais-tu, pardon?
J'avais probablement, je sais pas, 10 ans.
Et tu étais tout seul?
Non, j'étais avec ma mère, mais je me souviens qu'à un moment, j'ai dû lui dire, Maman, on s'en va. J'ai trop peur là.
That lady promised me 6 whole bars of cream whip hazelnut milk chocolate.
Come up, Bruno. I have some chocolate here. 5.
I can't even see any chocolate. Well, what if you please tell me?
Your parents were, well, they're kind of big music fans.
Tes parents étaient plutôt des mélomanes. Tu écoutais beaucoup de musique chez toi. Est-ce qu'ils t'emmenaient souvent au cinéma? Est-ce que tu as grandi avec certains films?
Kind
of. Ouais, dans un sens.
Est-ce que vous, je sais pas moi, est-ce que vous regardiez beaucoup de films à la maison, par exemple?
Ouais, oui et non. J'essaie de me rappeler. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas vraiment de magnétoscope. Et c'est pour ça qu'on allait dans ce petit cinéma. C'est comme ça que je me souviens de certains films comme Les Sorcières. Je pense aussi que Jurassic Park est sorti quand j'étais assez jeune.
I read your book.
Oh, that's great.
Do you really think the dinosaurs turned into birds? And that's where they all went? Because they sure don't look like birds to me. And then my teacher told me about this other book by a guy named Backer, and he...
She said I should write with you, because it'd be good for you.
But then
Mais quand on a eu un magnétoscope, ma sœur est devenue assez fan de West Side Story et ce genre de choses.
L'ère des comédies musicales.
Ouais, des comédies musicales. Et c'est à ce moment que mes parents sont inscrits à un vidéoclub. Ils appréciaient vraiment beaucoup les films. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai été complètement obsédé.